Hello! Dans cet audio, nous allons parler, enfin, je vais vous parler de la blessure même d'abandon. Donc, bienvenue à vous. Après la trahison et l'impuissance, nous continuons donc à descendre dans les sphères énergétiques, puisque la blessure d'abandon impacte principalement le chakra racine, comme nous allons le voir. C'est à cet endroit-là que l'on va avoir un affaiblissement, en fait, de l'énergie vitale. Et un chakra donc en mauvaise santé, de couleur fade également, hein, pour ceux d'entre vous qui sont clairvoyants et qui pouvaient voir que on a au niveau énergétique une baisse de luminosité, de vitalité en fait, de cette énergie à cet endroit-là, et notamment au niveau de la couleur, voilà. Bien entendu, cette blessure se reconnaît facilement lorsque l'on souffre d'une situation d'abandon, d'une situation de solitude. On ne supporte pas d'être seul et quand on est entouré, eh bien, on a peur de redevenir seul ou enfin, on a peur de la solitude. Au point que la personne seule a toujours besoin d'être accompagnée. Et si elle ne l'est pas, s'il y a une véritable solitude et qu'elle ne peut pas avoir d'entourage, elle va chercher beaucoup, beaucoup de distractions, et notamment à mettre par exemple la télé alors qu'elle fait tout à fait autre chose et qu'elle ne la regarde pas, ou mettre du coup la radio en fond sonore pour se sentir en fait accompagnée et se sentir moins seule, parce que c'est absolument inconcevable, absolument tolérable de se retrouver totalement seule. Donc il va y avoir comme ça une décoration de l'espace audio et visuel pour se sentir entouré. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je pense que c'est bien d'être tout à fait clair sur ce qu'est vraiment l'abandon. Avant de parler de la douleur, de la souffrance, qu'est-ce que c'est qu'un abandon? Parce qu'on peut des fois confondre avec le rejet. Alors, l'abandon, c'est une situation où quelqu'un, ou plusieurs personnes d'ailleurs, vont s'éloigner, c'est-à-dire vont faire autre chose ailleurs et vont laisser une personne derrière elle. Donc, ça peut être dans une situation physique comme un départ, un déménagement, ou quelqu'un qui devient ami avec une autre bande et qui n'est plus dans, qui ne passe plus de temps en fait avec les autres personnes, ou alors des amis comme ça qui vont changer d'établissement. Ça peut être aussi un collègue proche qui va quitter l'entreprise ou même carrément la mort de quelqu'un. C'est à ne pas confondre, comme je le disais, avec une situation de rejet où ce sont les autres qui vont demander à la personne de partir et eux vont rester. Donc on a vraiment une situation en fait inverse par rapport à l'abandon. Par contre, lorsqu'une personne souffre de la blessure d'abandon, eh bien, elle va ressentir, elle va avoir l'impression qu'on l'abandonne dans une situation, pardon, de rejet qui est réelle, parce que la blessure, en fait, va colorer la perception et nous faire croire qu'on nous abandonne, même si ce n'est pas vraiment le cas, même si vous voyez que c'est l'inverse qui se produit, ou même toute autre situation qui ne sont ni abandon ni rejet, mais il y a la coloration que l'ego va fournir pour teinter la perception et nous faire croire que nous sommes dans une situation d'abandon. Alors, comment naît, qu'est-ce qui est l'origine de cette blessure? Comme toujours, c'est l'enfance, et notamment avec le parent de sexe opposé. Donc pour une fille, ce sera son papa, et pour un fils, ce sera sa mère. Et ce parent de sexe opposé, eh bien, nous a blessés en nous abandonnant, en général, entre 1 et 3 ans, pardon. Donc ça, c'est d'après les thèses de Lise Bourbeau. Pour d'autres, le parent ne fait que rouvrir cette blessure que notre âme porte déjà en elle, parfois depuis plusieurs vies. Et c'est aussi, dans cette théorie-là, notre âme qui choisirait cette famille-là précisément, dans le but de réactiver la blessure, et cela dès l'enfance, pour nous donner une chance, en fait, de pouvoir la guérir dans cette vie-là, pour la mettre d'actualité, en fait, si on veut. Donc, peu importe la façon dont on pense, finalement, dans cette vie-là, en tout cas, l'origine de cette blessure, ça va être très tôt dans notre enfance. Parfois, même avant un an. Ok. Donc, jusqu'aux 3 ans, en général. Ce sera fait par un parent qui nous abandonne, réellement, dans une situation d'abandon, comme on a vu, physiquement. Donc, par exemple, un père qui quitte sa famille, ou une mère qui quitte sa famille, ou un père qui travaille beaucoup, qui travaille tard, ce qui fait qu'il n'est jamais tout à fait physiquement là. Ou alors, ça peut être aussi une situation de négligence, de manque d'intérêt, de manque de soutien, de manque d'écoute. Par exemple, le père peut être physiquement présent, il est là dans la matière, il est présent, il est dans les parages, mais il n'est pas disponible émotionnellement ou mentalement et il ne peut pas accorder d'intérêt à son enfant, à ses enfants. Par exemple, il ne joue pas avec lui, il s'en occupe de très peu, il ne lui fait jamais à manger, il ne passe pas de temps avec lui et en tout cas jamais ne le soutient en cas de peur, de tristesse ou même d'émotion de joie, hein, de célébration. Il n'aime pas là aussi pour les moments joyeux. Il peut rater des anniversaires, il peut ne pas y penser, etc. etc., etc. Donc, l'enfant n'est pas stimulé par les deux parents ou un seul parent et ce parent-là n'est pas disponible, il ne lui parle même pas ou très très peu. Voilà. Donc c'est un peu comme ça l'image du papa qui dit que les bébés finalement ne l'intéressent pas parce qu'ils ne savent rien faire et qu'ils laissent vraiment le stade nourrisson et bambin à la mère, même si cela arrive aussi aux mamans, mais quand même un petit peu fréquemment, donc on a un petit peu cette image-là en tête. Ok. Donc, bien entendu, un enfant a besoin de soutien et de l'intérêt de son, quand il n'y en a qu'un, ou ses référents quand il y en a plusieurs, et il va tout faire pour l'obtenir, même tout petit, même du coup avancé un an. C'est un instinct de survie. Le nourrisson sait qu'il doit charmer ses parents pour qu'on s'occupe de lui, pour qu'on puisse satisfaire tous ses besoins primaires, tout simplement, pour vivre, pour survivre. Et pourtant, le parent de sexe opposé continue d'être indisponible physiquement, émotionnellement, mentalement, ou les deux ou les trois à la fois. Hein. Et ça va être une source de douleur pour l'enfant, ça va être douloureux pour lui parce que ça va être un frein en fait à sa survie et il va devoir combler ça par des astuces. Et l'enfant va donc très tôt mettre en place ces astuces qui consistent en fait tout simplement à changer de comportement et avoir comme ça, quelques stratégies pour attirer l'attention du papa ou de la maman. Et si en plus ces comportements ne fonctionnent pas, il va entrer dans la troisième phase, celle de la révolte et des crises, parce que la douleur est peut-être tolérée jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain temps. Et ensuite, on va se battre contre cette douleur, on ne va plus l'accepter, c'est intolérable. Donc, on voit déjà qu'ici, très tôt, nous ne sommes plus déjà dans l'authenticité de l'enfant, dans son être primaire, pur, puisqu'il va devoir jouer d'astuces et de masques déjà. Il va ajuster ses comportements, puisque ses comportements authentiques ne lui permettent pas de vivre ou de survivre. Donc, il y a déjà adoption des masques, et ça même avant ses 3 ans. Lise Bourbeau parle énormément du masque des dépendants. Je ne vais pas forcément beaucoup utiliser le terme de masque. Pour moi, ça va être le souffrant, même si ça aide beaucoup que du coup, se détacher en fait de ces comportements-là, de voir que ce sont des masques que l'on adopte pour survivre, en tout cas dans l'enfance, et depuis très très tôt. Donc on parle là avant nos 3 ans. Puis, eh bien, ce masque-là, on va les garder parce qu'ils nous ont permis de survivre. Et il est très très difficile de pouvoir déjà voir que l'on porte un masque et ensuite de le mettre de côté et de revenir à des comportements qui sont plus caractéristiques de ce que nous sommes. C'est avant nos 3 ans, c'est devenu notre seconde peau. C'est pas juste des masques que l'on porte, ils ont fusionné avec nous. Bon, je vais reprendre sur les phases en fait qui vont nous transformer. Donc là, on était à la troisième phase. Une quatrième phase peut avoir lieu aussi, pas forcément, parce que l'enfant peut rester dans cette troisième phase, ce stade un petit peu rebelle, en constante opposition toute sa vie avec ses parents. Mais il y a aussi la possibilité de partir dans une quatrième phase, et c'est en général ce qu'on fait. Et cette phase sera celle de la résignation. Donc l'enfant va se résigner et va vraiment adopter totalement le masque du dépendant, dont on va quand même un petit peu parler un peu plus loin. Donc les quatre étapes de la création de la nouvelle personnalité blessée, de la nouvelle identité qui va être dirigée en fait par l'ego blessé, vont être donc un, d'être soi-même, aligné, authentique, donc un petit peu ce qu'on rêverait d'être tout le reste de notre vie, donc l'enfant pur, hein, vraiment cette innocence et cette pureté de l'enfant qui est toujours un petit peu soulignée justement quand on prend l'enfant en tant qu'archétype. En deux, la douleur ressentie de ne pas pouvoir rester soi-même pour survivre. Trois, la colère de ressentir cette douleur de façon trop intense ou sur une trop longue durée, qui vont du coup provoquer des crises, de la révolte. En fait, ça va être tout simplement une lutte de ne pas baisser les bras si facilement envers ce que l'on est, envers notre authenticité, envers notre soi, même quand on est bébé. Et on veut rester fidèle à ce soi, on veut rester loyal en ce qu'on est authentiquement au fond. Et à un moment donné, intervient en quatrième la résignation, et ça c'est l'adoption totale du masque de dépendant qui va devenir notre nouvelle personnalité. On voit donc que la blessure d'abandon, c'est avoir peur d'être délaissé, de se retrouver seul, mais pas seulement. C'est aussi la peur de ne pas être soutenu, de ne pas recevoir de reconnaissance, d'intérêt, d'affection, bref, d'attention. Car la blessure se crée en faisant ses tout premiers pas dans une famille, en général, et donc peu démonstrative, alors que le soutien est pour la personne qui souffre de la blessure d'abandon une véritable preuve d'amour, en fait. Tout simplement, il va y avoir cette équation dans la tête de la personne que le soutien égale l'amour. Je n'ai pas de soutien, je n'ai donc pas d'amour. Ce manque-là, ce manque d'amour, va donner l'impression de ne pas appartenir à sa famille. Et l'appartenance, en fait, le sentiment d'appartenance, est géré par le chakra racine. Donc l'énergie va s'y trouver affaiblie. Et cela est caractéristique, par exemple, d'un ancien trauma, des personnes qui peuvent vivre un ancien trauma, ou dans le cas de l'abandon, de négligence sur le long terme, parce que l'être a envie, en fait, de s'échapper de ce corps. L'âme est venue, elle n'a pas vraiment envie de rester dans cette situation de non-amour. L'âme, c'est l'amour, elle aime ça, c'est sa façon d'exister, de parler, c'est son langage, c'est sa colle, c'est tout ce qu'elle est, et elle arrive ici et elle voit qu'il y a ce manque-là d'amour. Or, le chakra racine, c'est vraiment le chakra qui va nous ancrer à la fois sur la planète et nous ancrer dans notre corps. Donc, c'est le chakra de l'incarnation. Et on a besoin d'énergie dans ce chakra, en fait, qui est la base, car c'est devenir, c'est être présent à la vie, c'est obtenir les forces du corps physique, en le nourrissant, en l'habillant, en le réchauffant, en en prenant soin. Donc on a aussi besoin de l'énergie et de la bonne vitalité dans ce chakra pour se tenir debout pour soi-même, pour donc établir un corps en pleine santé, en pleine vitalité, en passant du sang jusqu'aux os, sans oublier les muscles qui sont régis par ce chakra racine-là, parce que le corps, en fait, c'est le premier lieu où va s'ancrer vraiment l'âme, sa première maison, et là où elle a le plus besoin de se sentir en sécurité, entourée d'amour, tout simplement. Ensuite, la deuxième maison, ce sera l'utérus de la maman, qui ne va pas rester toute la vie. La maison suivante sera sa famille, l'endroit géographique. Qui en fait va aussi dépendre de l'énergie du chakra racine. Donc c'est vraiment en lien avec ce symbole de la maison qu'on peut le voir, que ce soit la maison corps, la maison pierre dans laquelle on vit, la maison foyer, donc la première famille nucléaire, hein, comme on appelle ça, et la femme et la maison terre également, la maison planète. Tout cela est régi par le chakra racine. Et donc un chakra racine en pleine vitalité va nous assurer d'avoir l'impression comme ça d'être au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. C'est ce qu'on pourrait résumer par être présent. Et c'est donc vraiment, vraiment dommage de ne pas aller jusqu'à guérir cette blessure-là, parce qu'on voit à quel point c'est essentiel, à quel point c'est racinaire, c'est fondamental et fondateur. D'ailleurs, nous venons au monde par le chakra racine, donc oui, c'est la matrice qui nous a porté, qui nous a créé jusqu'à la naissance, qui a été notre deuxième première maison, mais c'est le chakra racine, en tout cas lors des accouchements par voie naturelle, hein, qu'à ce moment-là, notre chakra racine à nous-mêmes va se créer, donc va s'activer en fait, pas se créer, excusez-moi, il va se créer à ce moment-là lorsque l'on va rentrer nous-mêmes dans l'énergie du chakra racine de la mère. Et c'est ce qui va créer notre présence, notre sentiment, notre impression de présence à l'ici et au lieu en fait où on est né. Puis en grandissant, on va développer ce sens d'appartenance avec la famille qui sera notre première tribu d'appartenance tout simplement. Et cela est commandé aussi, comme on l'a vu, par le chakra racine qui est le centre tribal en fait, le centre, oui, d'appartenance. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, notre âme choisit cette première tribu-là pour nous donner une chance de guérir. Et on arrive dans une famille, mais aussi dans une lignée familiale qui s'est construite, qui possède sa propre approche de la vie, sa propre vision, ses propres croyances et forcément aussi ses propres problématiques. Et donc on peut voir que notre âme a choisi de façon optimisée ce que nous avons à faire et que ce que nous avons à faire va passer par cette famille avec donc un parent absent, physiquement ou émotionnellement, et que notre âme a choisi d'expérimenter cette absence de support-là. Et donc, en faisant ce choix, elle va passer son existence à se questionner sur différents thèmes, comme la vie est-elle sûre ? Est-ce que je me sens en sécurité dans la vie ? Est-ce que je me sens connectée à ma famille de naissance ? Est-ce que je me sens connectée au lieu où je suis née ? Donc ce sont ces grands questionnements, ces grandes réflexions que l'âme va chercher à explorer par cette incarnation-là, au sein même d'une famille qui a elle-même la problématique de l'abandon. Souvent, lorsque l'on est blessé par l'abandon, on ressent donc une grande peine à quitter d'ailleurs un endroit, à quitter sa maison, parfois même pour un voyage, et parfois même une fois qu'on est en vacances, on va avoir du mal en fait à quitter le lieu de vacances, parce qu'il y a ce rapport avec le lieu qui est très très important, également dans la blessure d'abandon, mais qu'on ne soupçonne pas forcément à chaque fois que l'on en parle. Et même si de nos jours on est vraiment plus mobile, hein, la société nous demande cette mobilité-là, d'aller faire ses études beaucoup plus loin, d'aller travailler parfois quelque temps à l'étranger, eh bien on peut vivre comme ça beaucoup beaucoup de déménagements et de connexions en fait que notre âme va tisser avec d'autres lieux qui vont lui apporter une certaine nourriture, une certaine expansion, en tout cas des réflexions, des énergies qu'elle doit rencontrer, eh bien, il n'y a aucun lieu qui pourra, en fait, tout à fait s'opposer avec la fréquence bien, bien spécifique du lieu de naissance. Parce que c'est cette première impression-là qui va pousser l'âme à s'interroger, à se demander « mais où est-ce que j'ai atterri ?» À quel endroit est-ce que j'appartiens, ce premier niveau d'appartenance là au lieu ? Où suis-je vu ? Où suis-je honoré ? À quel endroit est-ce que tout va bien pour moi ? Où je suis en sécurité ? Et où est-ce que je suis aimée ? Donc, cette base-là, cette fondation-là, on va pouvoir, à partir de là, s'individuer, c'est-à-dire construire le soi unique, de l'âme unique, en nous posant la question de savoir qui l'on est au sein de cette tribu et qui l'on est au sein de cette planète, au sein de ces multiples incarnations, avec cette fréquence-là du lieu de naissance qui va dicter énormément de choses dans notre vie. D'ailleurs, c'est ce qui va aussi dicter la charte de astrologique, en fait, hein, par rapport au calcul de l'ascendant et au calcul, en fait, qui en découle de toutes les maisons, des 12 maisons astrologiques. C'est vraiment le lieu, en fait, où l'on est. Ok. Donc, ce chakra-là, ce chakra racine, contient l'empreinte de toutes ces réflexions-là qui viennent même à la naissance, avant la famille, la notion de famille, ces réflexions primaires de lieu d'incarnation, d'atterrissage et de réflexion d'appartenance à l'énergie terre, en fait. Donc, c'est très fondateur, mais c'est aussi donc, enfin, fondateur dans le sens de c'est vraiment la base, quoi. Mais ça intervient aussi, on le voit très très tôt, c'est à la naissance. Donc, c'est primaire, ces réflexions primaires dans vraiment le sens-là, à la fois fondateur et tôt dans le temps. Et ces réflexions primaires-là vont concerner tout ce qui va faire notre valeur, notre sentiment de valeur et toutes nos connexions avec le sexe opposé, qui après donc, va commencer à trouver des notions de réponse, ces premières réponses identitaires par rapport à ce que je suis face au sexe opposé. Ça va commencer dans le chakra racine avant de monter au chakra sacré plus haut, à l'émergence de la préadolescence et de l'adolescence. Donc, dans l'idéal, on voit que si on a bien pris soin de nous quand on est petit, lors de la petite enfance, eh bien, on va avoir de l'estime de soi, de la valeur de soi, de l'amour de soi. Et tous ces sentiments-là seront forts et fermement enracinés en nous. Sauf qu'en cas d'abandon, tout ça, il ne va pas l'avoir. Alors, prenons juste un petit exemple, une situation d'un père alcoolique qui n'est lui-même pas à l'aise avec ses émotions, sinon il ne boirait pas, et donc qui va être indisponible émotionnellement auprès des autres, et notamment de sa petite fille qui va se sentir absolument abandonnée. De plus, l'alcoolisme rime avec des colères imprévisibles, et en plus de se sentir abandonnée, la petite fille va avoir peur de son papa, va avoir peur du sexe opposé, et cela pendant des années. Dans le cas d'un garçon, ça pourra être une maman qui est très anxieuse, une maman qui est très souvent malade, ou qui a une maladie qui est très handicapante, chronique, et qui va être indisponible cette fois-ci, plutôt de façon physique, ou en tout cas qui ne pourra pas s'occuper de nourrir son enfant. Dans ces deux cas, l'enfant, dans ces deux cas d'exemple, hein, juste comme ça pour voir, eh bien, l'enfant va développer une hyper-vigilance, une hyper-adaptabilité, pardon, pour s'assurer de plaire aux parents afin qu'ils lui procurent la sécurité et l'amour dont il a besoin. Pour être en sûreté, il devra donc constamment se demander ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire ou comment paraître pour attirer l'attention. Cette hyper-adaptabilité-là va avoir comme conséquence un sens diffus du soi, parce qu'on perd de vue qui l'on est, ce qui donne en fait une faible estime de soi et une remise en question permanente parce qu'on va penser être à l'origine de chaque émotion, de chaque humeur de l'autre, donc d'autre, la cause aussi de cette indisponibilité-là. Nous devons donc continuer à explorer nos blessures en descendant maintenant dans nos fondations, dans nos besoins de base, dans la pyramide de Maslow également. C'est-à-dire que pour survivre, il nous faut un toit, il nous faut manger, avant même en fait de vouloir explorer les chakras supérieurs. Si on n'a pas ce sentiment d'estime de soi, de valeur de soi et d'amour de soi, il est absolument contre-productif d'aller chercher comme ça les chakras supérieurs pour chercher à ascensionner, à sublimer, à avoir du discernement, etc. Non, si à la base de la base, les fondations ne sont pas saines et solides, la construction ne tiendra pas, ce sera vraiment du temps investi pour rien finalement. Il nous faut regarder d'abord vers le bas, et c'est incroyable, mais c'est ce que propose justement le labyrinthe, à regarder les trois chakras du bas d'abord, à les rendre sains, à les guérir, avant de monter un petit peu plus haut, même avant de regarder le cœur. Pourtant le cœur c'est absolument central, et non, on nous invite d'abord à explorer les bases. Donc les bases ici sont de nous faire aller vers l'honneur en fait de soi, le soin de soi, la valeur de soi comme je le disais, et de faire la paix avec nos origines, que ce soit donc au niveau du lieu d'origine et de la famille d'origine, et surtout que, eh bien, on n'a rien à faire en fait pour mériter quoi que ce soit, pour... En fait, on mérite d'être là et on mérite d'être aimé, et c'est aussi quelque chose que la personne qui souffre d'abandon va avoir du mal à réaliser en fait. Parce qu'on peut lui dire, elle peut avoir la connaissance, oui c'est vrai, on mérite tout, ça peut être des affirmations comme ça qu'on nous donne, des affirmations positives, je mérite d'être aimé, etc. Mais s'il y a la connaissance, il n'y a pas l'intégration, il n'y a pas l'incorporation, ça reste au niveau du mental. Et ça c'est vraiment une des choses qui est vraiment importante à retrouver lorsque l'on souffre d'abandon pour pouvoir construire tout le reste de l'être. Tant qu'on reste coincé sur l'absence, sur le manque de ces valeurs de soi, on ne va pas aller bien loin. Donc ici, dans cette blessure, on va voir qu'on va toucher le sens également de la responsabilité que l'on a envers toute son histoire passée, envers tout son cheminement, mais aussi en rapport avec le lien au sang de la lignée même, et puis tout simplement au niveau de la qualité de notre sang qui doit être sain et oxygéné pour pouvoir en fait nous donner la vitalité d'agir à un autre niveau, de mettre en place des choses, de matérialiser, de manifester, etc. etc. Donc, ce n'est pas fini. Dans un autre audio, nous allons parler plus spécifiquement des maladies et problématiques. Je vais décider de le faire à part parce que pour le moment, je vous propose de nous arrêter là et de continuer avec du coup cet audio-là spécifique pour déjà incorporer et intégrer toutes les informations que je vous ai données. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout, et puis comme d'habitude, hein, vous allez voir l'habitude, c'est quelque chose que je vais beaucoup répéter, je vous dis à très vite pour la suite de cet atelier.